Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle, ton.com et comics. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir. C'est trop bien que tu sois là. Je suis trop contente d'abord de te voir en vrai. De Julie. Alors, attends, ton nom de famille, pour bien le prononcer.
Houillon.
Houillon, ouais, nickel.
Okay. Comme Bouillon avec un H.
Waouh, humour tout de suite, on commence.
On y va direct. Soyons cash.
Julie, multiples casquettes, je pense qu'on va revenir pendant tout le podcast de ce que tu fais et ce que tu fais pas, c'est-à-dire dormir. et donc principalement ton travail au sein du réseau de librairie Momi. D'ailleurs, c'est là qu'on s'est rencontrés, vu que je travaille aussi pour le réseau de Momi. Mais déjà, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas?
Et donc, je m'appelle Julie Houillon, j'ai 43 ans. Je suis actuellement à Clermont-Ferrand, où je suis responsable de la librairie Momi Clermont. Et je suis aussi, donc on commence le multicasquette, je suis aussi directrice de la com du réseau des librairies Momi. Et je suis aussi enseignante à la fac en tant que passe librairie.
Ok, donc métier du livre 100% quoi.
À fond les ballons.
Et justement, comment tu as commencé à travailler dans le milieu de la BD? Comment c'est arrivé, ta passion, les études que tu as pu faire pour en arriver là?
Alors, on a du temps là.
On a du temps, ouais.
À vrai dire, c'est pas un truc qui m'est venu toute petite. Ouais. Parce que j'ai pas imaginé que je pourrais être libraire en étant gamine. J'étais plutôt en mode vétérinaire, enfin tous les trucs qui font rêver les petits.
Après, j'ai su qu'il fallait les piquer quand vraiment c'était impossible.
Ça et les maths.
Pareil, on est la même.
Ça et les maths, la bio, la chimie, tout ça. J'étais pas forcément ultra fan des études non plus de base. Et par facilité, je me suis dirigée vers un doc d'allemand en me disant, bon voilà.
Facilité, l'allemand?
J'étais à l'époque bilingue.
D'accord.
Donc pour moi,
ça se perd du coup. Tu
bah, oui, depuis, beaucoup moins. Beaucoup moins. Et donc je m'étais dit, bon bah voilà, je sais parler allemand, je sais écrire allemand, je vais faire un doc d'allemand. Easy. Et en fait, après la première année, je me suis dit, ouais, non. En fait, ce qui me bottait, effectivement, c'était tout ce qui était littérature, philosophie, le livre. Mm-hmm. Et là, je me suis dit, ouh, Anguille Souroche, j'ai fait comme tout. Beaucoup d'étudiants, les forums, ouais. Étudiants, on vous présente plein de formations. Et là, j'ai découvert l'intitulé métier du livre. Et là, ça a été méga tilt. Pour éviter de me planter, j'ai quand même fini mon DUG à distance.
Okay.
Mais j'ai commencé à faire des stages dans tous les métiers du livre, donc bibliothèque, édition, librairie, centre de documentation, voilà, histoire de tester un peu, voir ce qui me bottait. Et puis, effectivement, la librairie étant mon target. Voilà. J'ai décidé d'enclencher une formation en métier du livre. Comme j'étais boursière, que j'avais déjà un DUG, j'ai été obligée de choisir par défaut. Et donc, j'ai fait une année spéciale d'un DUT métier du livre à Grenoble. Et j'ai enchaîné ensuite sur un IUP, donc ça existe à l'époque, il y a longtemps. Un IUP métier des arts et de la culture, mention métier du livre. Donc, j'ai fait ma licence, ma maîtrise. Et puis voilà, donc ça s'est très bien passé, j'ai noué des contacts et c'est là aussi où j'ai rencontré la librairie Momi, celle de Grenoble à l'époque, et notamment les fondateurs qui étaient enseignants à l'UP. Voilà. Le contact s'est bien fait, on est restés amis. J'ai bifurqué un petit peu après, j'ai fait une formation de concepteur multimédia. Je travaillais à mi-temps bibliothèque. C'est le multicasquette,
il a toujours été présent.
Voilà,
en fait.
C'est ça. J'ai fait une partie de ma formation en alternance de concepteur multimédia pour une compagnie de danse hip-hop. Et donc, j'ai mis un pied comme ça dans le spectacle. Il s'est avéré que la compagnie de danse hip-hop ne pouvait pas forcément m'embaucher parce que voilà, c'était compliqué financièrement. Et donc, j'ai pu intégrer la scène nationale d'Annecy en tant que chargée de com. Et c'est là que j'ai fait un petit peu mes armes, on va dire, au niveau communication et relations publiques. Et puis, coup de fil de Cric, un des fondateurs de Momi, qui m'appelle et qui me dit, voilà, on a le responsable de Momi Clermont qui s'en va. Est-ce que tu connaîtrais quelqu'un? Eh bien, je connaissais très bien moi-même. Voilà, je me connaissais bien. Et effectivement, c'était un de mes rêves. Donc, j'ai dit banco, j'ai pris mes clics, mes claques, mon amoureux. Et on a débarqué à Clermont.
Voilà. Ah oui, dans la valise, l'amoureux, exactement,
ah oui.
Pratique, hyper pratique, je note. Mais du coup, t'as connu et rencontré le livre dans différents endroits, que ce soit en médiathèque, que ce soit en librairie. est-ce que c'est différent, tu vois, parce que moi je connais une personne qui travaille en médiathèque, je connais une personne qui travaille en librairie, et la vision de la BD ou la vision du livre, comment tu la vends, comment tu la présentes, les choix sont quand même tu vois, un peu différents.
Ah oui, carrément différent, ouais. Carrément différent, et en même temps, on a un objectif commun,
ouais.
C'est diffuser le livre,
oui.
Voilà. Quelles que soient les modalités, c'est plutôt les modalités, les techniques qui vont changer, et puis la finalité, bien sûr, on est en librairie, donc
oui.
On a quand même une finalité commerciale, ne serait-ce que pour faire perdurer la librairie, pour payer les salaires, etc.
Oui, complètement.
Mais ce qui nous relie un petit peu tous, c'est quand même l'amour du livre et l'amour de l'objet livre. Moi, j'ai toujours lu quand j'étais gamine, depuis toute petite. Je suis tombée dans toutes les bibliothèques que je trouvais sur mon chemin. Et c'est vrai que, voilà, c'est... Ce qui va être un petit peu différent, peut-être, c'est que au sein de Momy, j'ai pu avoir un petit truc en plus.
Ouais. Ouais. Ouais.
Que d'autres librairies que j'avais pu côtoyer. Et notamment, parfois aussi, de la vision des choses par rapport à certaines grosses enseignes.
Ouais.
Voilà.
Ouais. Et justement, je voulais te demander tes missions exactes au sein de Momy et comment tu définis l'identité de Momy.
Alors, vaste question. Mes missions exactes. Donc, en tant que responsable de Momy Clermont, c'est moi qui vais en accord, bien sûr. Donc, je suis associée à la librairie de Momy Clermont. Donc, j'ai deux associés en local, Quentin et Pedro. Et j'ai les fondateurs de Momy aussi qui sont associés. Et donc, au niveau de Momy Clermont, je suis plutôt en mode capitaine, quoi. Donc, définir la stratégie, m'assurer que les valeurs sont respectées, que l'achalandage est bon, qu'on est bon dans nos pratiques et tout ça. Plus tout ce qui est événementiel, communication, relations publiques, voilà. Et puis au sein de Momy, alors c'est venu un petit peu... c'est pas venu comme ça, cash, ce poste de directrice de la com. C'est venu par rapport à mon implication et ma relation avec les fondateurs qui a fait que on a beaucoup parlé de l'image de Momy, de ce qu'on voulait transmettre aussi aux nouvelles générations de libraires, de ce que c'était que l'esprit Momy, et à force d'en parler, on était plutôt sur la même longueur d'onde, et moi j'avais une appétence pour la communication, donc naturellement, voilà, j'ai commencé.
Donc du coup, l'esprit Momy, il n'a pas été créé avec les trois les fondateurs. Il est venu, en fait, il est né au fur et à mesure des librairies, du réseau et de vos discussions.
Je pense qu'il existait.
Ouais.
Il a toujours existé. C'est vraiment un des fondements. Mais il s'est
construit.
Verbalisé.
Ouais.
Au fil du temps, parce que effectivement, les gens qui avaient baigné dedans. Pour eux, c'était facile, c'était inné, j'ai envie de dire. Mais quand on a une nouvelle génération qui arrive, quand on a des libraires qui ont aussi été parfois formés dans d'autres librairies ou d'autres enseignes, il faut quelque part qu'on leur transmette les valeurs de l'entreprise, les valeurs de ce qu'on pense faire notre différence, en tout cas.
Mais c'est pas facile de transmettre ces valeurs-là, parce que moi, j'étais dans une boîte où, justement, la chargée de com avait vraiment un cahier des charges de qu'est-ce qu'était l'entreprise. Mais ça, c'était ma vision. Il y avait des fois où c'était un peu forcé, quoi. Où il fallait vraiment qu'on comprenne l'identité dans toutes les actions liées à l'entreprise. Sauf que des fois, c'était pas... possible. Enfin, tu vois, il y avait quelque chose qui est aussi compliqué à comment on transmet, comment on dit, ok, cette identité, c'est celle-ci, et vous devez la respecter dans vos supports de communication, dans la manière d'écrire de vos éditos. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est pas forcément facile de transmettre ça.
Je pense que le secret de fabrication Momy, c'est... Je devrais peut-être pas le dire, mais c'est de proposer sans imposer.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on donne des lignes conductrices, on dit, voilà, pour nous, Momy, c'est plutôt ça, mais on reste toujours ouvert à la discussion aussi.
Ouais.
On est ouvert au changement, il peut y avoir des petites variations, mais il y a un fond qui ne doit pas être trahi, et ça, en fait, ça va passer plutôt par la pédagogie, la compréhension, la discussion, les débats aussi. Parfois, les débats peuvent être un peu, un peu rock'n'roll, mais voilà, on arrive au final à converger tous dans la même direction. Je crois que c'est vraiment ce qui est important. Mais effectivement, plus il y a de monde, plus on a d'individualités différentes et plus c'est complexe de rassembler toutes ces individualités sous une même bannière,
ouais,
ou sous un même esprit, quoi.
Ouais.
Donc je pense que l'enjeu sera aussi, dans les années qui viennent, de réussir à conserver et à transmettre sans remettre en question ce qui arrive.
Voilà. Ouais. Et du coup, quelle est ta vision de la communication ? Quelle est la manière dont toi, tu aimes la communication de, des librairies
Des librairies en général ou de Momie en particulier?
De Momie, par exemple.
La communication de Momie, j'essaye de toujours faire en sorte qu'elle se ressente sur la qualité plus que sur la quantité. Voilà, je pense que c'est vraiment ma marque, un mois de fabrique. Alors, peut-être parfois à tort, mais en tout cas, je pense que ce qui fait la différence Momie, ce qui fait que nos clients, nos partenaires nous perçoivent différemment, c'est parce que, pardon l'expression, mais on pète pas plus haut que notre cul, quoi. Et qu'on essaye de faire les choses comme si on était tout petit, en soignant la relation, en soignant l'image, en soignant le service, enfin voilà.
On t'accorde beaucoup de place à l'humain, quand même.
Carrément.
Ouais.
À fond. À fond, c'est pour ça aussi que quand on fait des supports de communication à Momie, on essaye de faire en sorte que ce soit le reflet de la diversité de Momie. À aucun moment, on va formater. Enfin, on va formater forcément, on a des maquettes, donc un nombre de signes, un type de visuel, des choses comme ça, mais on ne va pas imposer notre manière d'écrire, par exemple, au libraire. On veut que ce soit le reflet de la diversité. Et nous, on est garant plus de la qualité d'information et de ton, mais pas forcément de.
Et donc, c'est toujours possible de mettre en avant la qualité et l'humain dans un monde où on nous demande de toujours plus, toujours aller vite et de gagner de l'argent chaque seconde.
C'est pas toujours simple.
Je me dis que c'est trop beau ce discours-là, il faut bien entendre.
Non, c'est pas toujours simple, mais je pense que. Bon, je vais un peu encenser Momie, mais je pense que Momie est un bon vivier pour ça. Parce que justement, on n'est pas que ci ou pas que ça. Parce qu'on est plein de nuances, voilà. Et parce que Momie reste, et j'espère restera toujours, un peu un laboratoire où les gens ne pensent pas avoir la vérité vraie et on ne bouge pas de notre ligne de conduite. Et pourtant, c'est moi qui dis ça, qui passe souvent pour la psychorigide de service, mais je pense que ce qui fait la qualité de Momie, c'est ça, et qu'on arrive à rester vrai et humain parce qu'on respecte les individus.
Ouais.
Voilà. Et ça se trouve aussi dans notre manière de vendre, en fait, hein, ouais. Parce qu'on reste des commerçants, on ne va pas se mentir.
Oui. Et les librairies fonctionnent comme ça, elles vivent parce
qu'on
fait
de la vente. Mais la différence de Momie, c'est qu'on a des gens qui sont ultra spécialisés et qui savent transmettre, voilà, qui savent partager, qui savent être enthousiastes. Et c'est ça vraiment le cœur pour moi de ce qu'on peut percevoir de l'esprit Momie à l'extérieur.
Et Momie aussi produit beaucoup de contenu en physique, avec notamment le journal, avec un petit journal dédié à la culture japonaise, je ne sais plus le titre qui
donc
joue.
Il y a trois publications.
Ouais, c'est ça.
Il y a le Feuille de Shoot,
ouais.
Qui est un format plutôt journal quotidien.
Ouais.
On a le Kaiju Punch, qui est un format dépliant, un peu plus à la japonaise, petit format poche.
Oui, c'est ça, ouais.
Et puis, on a aussi les 100 à lire avant la fin du monde, qui sont plus des...
Formats italiens.
Formats italiennes,
ouais.
Avec,
c'est ça.
Avec petit revêtement peau de pêche sur la couverture. C'est-à-dire comme qui s'enflamme. Où là, on a 100 titres qui vont être chroniqués par les libraires.
Voilà. Et donc pourquoi créer tout ça ?
Ah, j'en ai oublié un, pardon. C'est le What's Next, où là,
ah oui,
c'est plus, on va dire, un agenda des sorties.
Oui.
Donc ça, c'est très simple. Hein. C'est vraiment un support très informatif, sans fioritures. On a commencé par les 100 à lire avant la fin du monde. C'était notamment Cric, un des fondateurs, qui était avec Elsa, qui est notre assistante de direction, qui était aux manettes pour créer ce support-là. Et l'idée, c'était... justement, de mettre sur un support papier tout ce que nos libraires aimeraient conseiller à nos clients.
Ça permet aussi d'accompagner les libraires aussi dans leur démarche.
Carrément. Et ouais. On s'en sert, par exemple, aujourd'hui, on essaye en tout cas de le prendre en main pour, comme support pédagogique pour former nos libraires aussi. Et donc, ce support, on le voulait quali. On ne voulait pas que ça finisse dans une poubelle. Mais par contre, on voulait que ça puisse finir dans des toilettes. Au sens
ouais,
traîner bah, dans des toilettes.
Il est dans mes toilettes. C'est voilà. Hyper pratique.
Traîner dans des toilettes, traîner sur une table de salon. Ouais. L'idée, c'était que ce soit un bel objet, que les gens le perçoivent comme un cadeau parce que c'est un cadeau. C'est vraiment... voilà. Et qu'en même temps, le ton, il soit pas celui qu'on retrouve très lisse, très... très uniformisée qu'on peut avoir dans certaines publications d'enseigne où on vous donne les 100 à lire en science-fiction ou les 100, voilà. Et donc ce premier volume, il a été construit comme un reflet de la diversité éditoriale. On voulait pas mettre dedans les incontournables parce qu'on part du principe qu'on n'a pas besoin d'en parler au sens où les gens en entendent parler. Par contre, on voulait mettre, voilà, les petites pépites qu'on avait envie de défendre.
Donc pareil, là on retrouve l'aspect très humain. Parce que les petites pépites, c'est-à-dire les coups de cœur, les titres que veulent défendre les libraires et pas forcément les titres qui vont se vendre facilement. Donc, il faut les mettre là parce que c'est des titres, entre guillemets, faciles. Ils peuvent être présents parce que ça peut être aussi un coup de cœur.
C'est carrément ça. Ouais. C'est carrément ça. Et puis, il y a un truc aussi un peu transgénérationnel. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même culture en fonction de l'âge qu'on a et de ce qu'on a lu. Et donc, ça devait être le reflet de ça. Et tout le monde devait s'y retrouver. Le père, la mère, le gamin, la gamine. Tout le monde devait pouvoir piocher dedans des idées. Des idées de lecture. Et en plus, on a voulu le faire un peu aussi façon humoristique. Donc, on a designé nos libraires avec des petites infos marrantes sur eux, avec un design un peu old school, un peu vintage, qu'on trouvait sympa. Enfin, voilà. Justement pour, quelque part, sortir du rang.
Ouais. Voilà. Et humaniser aussi. Qui est une stratégie de com aussi. Hein.
Bien sûr, bien
même
sûr.
Si c'est...
Même si à l'époque, on ne l'a pas forcément dessiné comme une stratégie à long terme. Et tout ça, c'est vraiment, encore une fois, à Momi, il y a beaucoup de spontanéité. Et ça fait partie des choses qui ont été spontanées. C'est-à-dire une envie, hop, allez, on le fait, soyons fous. Quelque part, on ne se pose
par
même pas la question
et par plaisir,
combien ça coûte. On le fait parce que ça nous fait plaisir. Ouais. Voilà. Et ensuite, il y a eu plusieurs autres volumes dont la ligne éditoriale a un petit peu bougé parce que, ça, justement, encore une fois, ça se fait en fonction des envies, ça se fait en fonction des besoins, en fonction des réalités du terrain, en fonction de tout ça. Donc, on a décliné manga, comics, jeunesse, voilà. Et à chaque fois, on fait appel à un auteur aussi pour illustrer la couverture, pour nous faire des petits designs à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est, on va dire... La publication en dur qui est vraiment faite pour être gardée. Et puis ensuite, on a voulu imaginer un support plus magazine. Donc c'est là qu'on a pensé aux feuilles de shoot. Donc là, j'ai travaillé avec Rick à l'époque pour imaginer ça, tout simplement parce que je me suis portée volontaire. qui veut, moi. Et pareil, on était un peu sur la même vision du truc. Pas de pub. Hein, l'idée, c'est pas qu'on monnaie le truc parce qu'après on est plus libre d'un point de vue éditorial non plus. Oui. On veut qu'il y ait de l'info, mais en même temps on veut pas simplement raconter des livres. Ouais. On veut raconter un contexte. Ouais. On veut resituer des œuvres, des auteurs
ou des personnages.
Des personnages. On veut proposer une autre vision des choses, comme nous en fait on pourrait en parler entre libraires ou avec nos clients en direct. Et puis surtout aussi, on voulait valoriser toutes les compétences et les connaissances de nos libraires qui sont hyper pointus, hyper passionnés, à fond dans leur truc. Et finalement, ils ne vont pas faire un article de presse à un client quand il débarque dans la librairie. Oui. Mais par contre, ils peuvent dire « Ah bah tiens, si ça t'intéresse, j'ai un support papier, tu verras, il est cool. »
Et puis des fois, tu peux très bien vendre un bouquin à l'oral parce que tu as une aisance un peu plus facile, mais... ne pas savoir l'écrire. Et c'est pour ça aussi que c'est bien de proposer différentes versions et de, tu vas pas forcément tomber dans une review classique de ce qu'on attend d'une critique de BD, mais de prendre une autre vision, quoi. C'est ce qu'on retrouve dans le journal.
Tout à fait. Et d'ailleurs, une des choses que je fais dans ce magazine, c'est justement d'aider les gens à écrire.
Oui.
C'est-à-dire un peu de faire le script pour eux, quoi. Je retraduis ce qu'ils me disent et des fois, je vais écrire des articles.
Bah, rédactrice en chef, hein, c'est aussi
Oui. Mais je veux dire, des fois, j'écris quasiment une grosse partie du texte ou je réécris une grosse partie du texte justement pour accompagner les gens. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils ont à dire. Et moi, mon objectif, c'est qu'il soit diffusé le mieux possible. Mmh. Voilà. Et puis ensuite, on s'est dit, le feuille de shoot, c'est super cool, ça plaît, les gens s'en saisissent, l'attendent et tout. Et par contre, ça n'intéresse pas forcément nos lecteurs plus typés manga. Du coup, on s'est dit, faut qu'on en fasse un pour le manga. Donc c'est là qu'est né le Kaiju Punch, qui est un format plus court. En termes de texte.
Mais très intéressant. Le dernier, il est vraiment très très cool. Ça m'a marqué l'article, en tout cas la note sur le manga et le sport.
Ouais.
Et vraiment tous les sports qu'il y a dans le manga et l'évolution que ça a eu avec le temps et tout. Enfin, moi qui suis pas dédié dans cet univers-là par manque de temps, malheureusement. Je trouvais ça vraiment accessible. Ça m'a même donné envie de lire des titres, quoi.
Mais tant mieux, parce que c'est vraiment l'idée. C'est vraiment l'idée, c'est de réussir à faire des magazines.
On va croire qu'on est payé par les patrons de Momie. Alors
non, bah
tout,
oui.
Bah... C'est juste que tu passes à Paris, qu'on s'entend bien, on se dit bien, on fait un podcast, quoi. Mais je vous jure.
Je ne suis pas payée pour dire tout ça, je précise.
Je suis pas payée tout court pour faire des podcasts.
Donc oui, un des objectifs, enfin une des lignes directrices que j'ai au niveau directrice éditoriale pour ces publications, c'est il faut que ça intéresse et les gens hyper pointus et les gens qui n'y connaissent rien.
Ouais.
Et si possible, il faut que ça permette aux gens qui sont pointus de partager à d'autres qui ne connaissent pas certains sujets. Moi, mon target vraiment ultime, c'est qu'un parent se retrouve avec un feuille de chou dans les mains et le fasse lire à son ado parce qu'il y a un sujet là-dedans qui pourrait l'intéresser et qui pourrait partager.
Ouais.
Encore une fois, l'humain, le lien, tout ça. On est là-dedans. Et donc, pour ça, bah, il faut diversifier vachement les sujets. Il faut des fois aller chercher des ultra spécialistes, mais pas forcément. Ça peut être aussi un article de synthèse. Enfin, voilà. Et puis, voilà, je crois que j'ai fait le tour des magazines.
Mais c'est peut-être une question piège. Je vais peut-être prendre dans plein mon grade parce que j'écris aussi dans le journal. Mais comment t'identifies? Et c'est entre. C'est un podcast en audio, vous pouvez pas le voir, mais c'est entre guillemets un bon d'un mauvais article. Parce que je pense pas qu'il y a de bons ou de mauvais articles, parce que justement, tout le monde a une envie d'écrire, mais peut avoir des faiblesses au niveau de la syntaxe, etc. Mais comment tu. Est-ce que tu as un feeling comme ça de te dire, ou un instinct de te dire, ok, là, il y a un vrai intérêt, mais je vais m'attacher à la structure, ou là, en fait, non, ça va pas parler aux gens
Je marche pas mal à l'instinct, mais en gros, je pense qu'il n'y a pas de mauvais articles, comme tu dis. Il y a des articles à améliorer.
Ouais.
Donc, si la problématique, elle est de la langue, de la syntaxe, de la grammaire et tout ça, bon, bah voilà, je bosse avec un correcteur. Qui est aussi mon mari, donc c'est pratique. Mais
il se met dans les valises. Il corrige. Ah, j'adore. C'est bon.
Voilà. Donc on échange ensemble pour essayer de trouver la bonne. Enfin, lui, il va corriger surtout la syntaxe. Moi, je vais être plus engagée sur la formulation et le fait de garder un style qui soit pas trop ampoulé, pas trop. Pas non plus trop léger et qu'on n'y comprenne plus rien, quoi. Donc il faut garder ça. Et puis quand j'ai un doute sur le contenu, très souvent, on va dire dans 45% des cas, je revérifie. C'est-à-dire je vais moi-même faire des recherches sur le contenu de l'article et je me permets d'échanger avec le rédacteur et de dire peut-être que t'as pas parlé de ça et que ça pourrait être intéressant.
Ouais.
Voilà. Je sais que par exemple, il y a des choses qui plaisent que moi je trouve intéressante, parce que moi j'ai un mode de fonctionnement comme ça, c'est que je retiens les choses grâce aux anecdotes.
Ouais.
Et donc je trouve que quand tu rajoutes de l'anecdote à un contenu qui est un petit peu dense,
ouais,
et ben ça permet de l'enregistrer, de créer une espèce de moyen mémotechnique. Et donc j'essaye de créer ça, de dire au rédacteur tiens, si tu rajoutes telle anecdote à tel endroit là,
ouais,
hop, ça allège le propos et ça raccroche les gens.
Ok, ouais, voilà. Ouais.
Et c'est d'ailleurs aussi quelque chose que j'utilise dans mes cours.
Ouais.
Je fais des one-man shows et des blagues à certains moments quand je vois
qu'ils sont
que
plus
je
là.
Les perds.
Ouais. Je fais exactement pareil. À l'Assemblée Générale, j'ai dû faire une blague pour la réveiller tout seul. Ouais.
C'est ça. Donc voilà. Et voilà, mais c'est un échange. Et je pense que ma position au sein de Momie et ma relation avec les libraires et les rédacteurs fait que ça se passe hyper bien. Enfin, en tout cas, j'essaye d'être ultra bienveillante. À aucun moment je vais juger ou quoi que ce soit, je veux juste au contraire tirer le meilleur de ce qu'ils ont à dire.
Trop bien, parce que j'ai mis une anecdote dans mon article, donc
bien. Je l'ai pas encore lu, mais ça va bien, je suis en vacances normalement, donc.
Et on parle beaucoup du milieu du livre, de la BD, du comics et du manga, et on retrouve ça dans les différentes productions de Momie, mais il y a aussi le terme de roman graphique un peu partout.
Le fameux,
le débat, c'est parti. Non, qu'est-ce que... Vraiment, je sais, à chaque fois que je suis avec des personnes de ce milieu, et même pas des personnes de ce milieu, des fans, des passionnés, des lecteurs, des lectrices, qu'est-ce que t'en penses de ce terme-là? Sachant que t'as aussi la casquette de libraire, et que je comprends ce terme de roman graphique pour les librairies, pour toucher un nouveau public, qui se sentent plus en sécurité quand on leur parle de roman graphique que de comics ou que de BD. Et les éditeurs aussi jouent ce jeu-là. Là, j'ai lu une parution qui va sortir, plus urbaine, Horizon Oblique. Incroyable. Et le scénariste et dessinateur, si je dis pas de bêtises, en tout cas, scénariste, dit que c'est son premier roman graphique. C'est édité chez Urban Comics. C'est un comics. Tu vois ce que je veux dire?
Alors, pour moi, il y a autant de définitions que de personnes pour le roman graphique. De base. Donc, quand j'ai du mal à définir quelque chose, je définis ce qu'il n'est pas. En tout cas, c'est comme ça que je transmets aussi à mes élèves quand j'en discute avec eux. Donc, pour moi, un roman graphique n'est pas un format classique de bande dessinée franco-belge. 48 pages. Voilà. Pour moi, un roman graphique n'est pas non plus, à proprement parler, la traduction des graphic novels, puisque le contexte d'utilisation n'a pas du tout été le même. Pour moi, le roman graphique, c'est d'une certaine manière, c'est pas quelque chose de négatif dans la mesure où ça a permis d'élargir un maximum un lectorat. Mais effectivement, on va pas se mentir, à la base, au moment où on a commencé à utiliser ce terme, c'est plus forcément le cas aujourd'hui, mais au moment où on a utilisé ce terme sur le marché français, c'était une technique marketing pour déculpabiliser les gens de lire de la BD.
De la BD, ouais.
Voilà. Mais je suis assez proche de ce que dit Peters, notamment là-dessus. Je pense que c'est plutôt une richesse. Je pense que c'est plutôt intéressant de dire, justement, la BD, ce qui fait la richesse de la BD, c'est qu'elle se décloisonne, c'est qu'elle s'ouvre, c'est qu'elle
C'est sa diversité aussi.
Voilà. Mmh. Et pour moi, le roman graphique, c'est le reflet de la diversité.
Et de l'évolution aussi d'artistes qui aussi maintenant dans les styles graphiques qui empruntent un style à la BD mais aussi au manga, on voit ça beaucoup avec le label 119 notamment, c'est peut-être lié aussi à ça.
Oui, l'hybridation, ouais. Et les multiples influences des aires culturelles de la bande dessinée, bien sûr que ça nourrit le roman graphique, bien sûr que ça permet de mettre une bande dessinée d'origine asiatique dans les mains d'un lecteur de roman graphique.
Mmh. Oui.
Et inversement, une bande dessinée américaine dans les mains d'un lecteur de roman graphique. Ça floute les frontières. C'est vrai que c'est difficile après de s'y retrouver un petit peu. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de s'y retrouver? Enfin, moi, ce que je trouve important, c'est de réussir à définir pour chaque client qui vient nous voir, c'est quoi pour vous un roman graphique. Et en fait, tout comme quand quelqu'un nous dit j'ai aimé tel titre, il n'a pas aimé le titre dans sa globalité. Il y a des choses qu'il a particulièrement aimées. Et donc nous, notre job de libraire, c'est de savoir, c'est de comprendre, c'est d'aller par-delà la première demande, comprendre ce qu'il veut vraiment dire par là.
Et de le prendre par la main et de le guider.
Et de l'emmener. Après, c'est sûr que si on utilise juste ce terme-là pour se déculpabiliser, je trouve ça con. Enfin, je trouve contre-productif.
Oh, voilà. Oui.
Par contre, que ce soit le reflet aussi d'une volonté de s'émanciper d'un format, de s'émanciper d'un style, de s'émanciper d'un type de sujet, là, je trouve ça très, très cool et très riche. Voilà.
On va parler d'un autre sujet qui fâche. Qu'est-ce que ça fait d'être une femme dans un milieu quand même, alors, pas exclusivement masculin, je pense qu'il a été au début, beaucoup, donc quand tu t'es lancée, j'imagine. Moi, je vois l'évolution de mes 5 années, où ça fait 2 ans, je travaille avec beaucoup plus de femmes, j'en ai beaucoup plus présente, par des droits, etc., et par aussi le fait que les femmes prennent position et non plus à avoir peur de se mettre à des postes plus hauts, je dirais. Mais est-ce que toi, t'as ressenti par moment ta position en tant que femme? Est-ce que ça a été difficile ou pas?
Oui.
Et merde. Attendez, pour une fois, tout s'est bien passé. Je n'ai pas vécu le patriarcat.
Alors, moi, je suis rentrée dans ce milieu. Alors, je ne parle pas de mes études, parce que dans les études, oui, j'ai participé à des festivals. Oui, les femmes sur un festoche, c'était censé être un peu des hôtesses. Hein, on ne va pas se mentir. Voilà. Sauf que moi, je tenais la caisse, donc j'étais loin d'être une hôtesse. Quand j'ai pris la responsabilité de Clermont, donc j'avais un peu presque 30 ans. Et c'est vrai que ça a été un petit peu chaotique parce que je suis arrivée et quand un représentant que je connaissais pas débarquait, il me demandait toujours où était mon patron. Donc voilà.
Donc, tu l'as lu, la BD Il est où le patron ? Quelque chose comme ça, qui est incroyable dans le milieu de l'agriculture.
Même combat. Donc ça, ça a mis du temps. Encore très récemment, il y a eu des fois... En plus, j'ai un associé qui est un petit peu plus âgé que moi, qui a 8 ans de plus que moi. Régulièrement, on le prend lui pour le patron. Et puis moi, je suis la femme du patron. Donc pour vous dire que
que si t'es là, c'est juste parce que t'es la femme d'eux, quoi.
Exactement.
T'as du tout fait d'études ou pas par tes compétences.
C'est sûr que majoritairement, on a été en contact avec des éditeurs hommes et des chargés de librairie femmes. Ou des chargés de tournée.
Chargés de presse, femmes.
Ouais. Donc on voit comme ça qu'il y a des espèces de métiers où majoritairement il y a des femmes et d'autres où majoritairement il y a des hommes. Mais c'est pas nouveau. Hein. Je sais que dans les formations métiers du livre qui existent, régulièrement, alors déjà c'est souvent des formations où il y a très peu d'hommes. Par contre, les hommes ont 2 ou 3 fois plus de chances de réussir que les femmes. Ouais. C'est très triste. Enfin, bon, après, pour moi, ce n'est pas une fatalité parce que je suis là où je suis et que je n'ai pas l'impression d'avoir eu des bâtons dans les roues. Des a priori, oui, j'en ai rencontré, mais je ne pense pas avoir eu... J'ai fait un peu de forcing, on ne va pas se mentir. Mais en général, quand on fait preuve de sexisme envers moi, je fais preuve de sexisme en retour.
Mmh. Voilà. Égalité.
Voilà, un partout, pas le centre. Donc voilà, j'ai pas vraiment souffert. Ça m'a agacé, ça m'a blasé, mais ça m'a.
Mais j'en ai parlé avec une amie dans le milieu qui a aussi un poste de responsabilité importante dans une boîte. Et je pense, est-ce qu'il y a ce truc aussi où parce que t'es une femme qui n'a pas sa langue dans sa poche ou toi comme moi, on n'hésite pas à dire aussi quand ça nous plaît pas, etc. Et que ça peut se comparer à un comportement masculin, un petit peu, d'être un peu fonceuse et tout. Et je pense que moi, j'ai eu ce comportement-là aussi. Et il a évolué parce que j'ai bossé avec beaucoup d'hommes et qu'au début, j'ai vécu énormément de sexisme et que je voulais pas que ça continue et que j'en avais marre qu'on me regarde pas dans les yeux. Est-ce que tu penses aussi que c'est ça qui a été... t'as un peu ta bouée de sauvetage, mais en tout cas qui t'a permis de vivre des choses moins douloureuses que d'autres femmes parce que bah t'as gueulé quoi.
Ah oui carrément, mais il y a plein de gens qui savent que je suis un peu masculine dans ma même à Momie Clermont pendant longtemps c'était les nanas qui portaient plus que les mecs, enfin voilà. Mmh. Physiquement on en vient à adopter effectivement comme tu dis des postures fortes.
Ouais.
Mais ça c'est évident. Bien sûr que si je m'étais pas mis dans cette posture et si j'avais pas dit le fond de ma pensée, si j'avais pas répondu du tac au tac quand je prenais des remarques sexistes, j'en aurais souffert, ouais. Évidemment. Donc il y a une espèce de... Oui, on rentre sur un ring. On va pas se mentir. Hein, mais la possibilité existe. Enfin, là où je me rassure quelque part, là où j'atténue un peu le truc, même si tout le monde sera pas d'accord avec moi, c'est que ça reste possible.
Oui.
Parfois au détriment de certaines choses, mais c'est pas complètement fermé. Et moi, quand j'ai commencé, donc il y a 13 ans, on était peut-être 2-3 nanas responsables de librairies PBD. Mais depuis, ça a vachement changé.
Ouais.
Donc les choses évoluent aussi.
Tu peux dire du coup que t'as un féminisme positif ?
Oh la vache.
Elle n'a pas été écrite cette question, c'est que de l'impro là.
Un féministe...
Ou pas, enfin...
Oui, mais plus que positif, je dirais combattant. Voilà, combattant au quotidien, pas me laisser marcher sur les pieds comme tu dis, et à pas laisser les choses se faire... Je pense que oui, ça sert à rien de souffrir dans son coin. Et bon, après, des fois, on n'a pas le choix. Hein. Je veux dire, il faut avoir les clés pour pouvoir le faire autrement. Mais je pense que c'est important. Et puis, bon, j'ai non plus pas été payée non plus pour dire ça, mais à Momie, on est quand même assez franc du collier. Et donc, c'est pas forcément le genre qui va faire qu'on va accéder à un poste. C'est vraiment les compétences. Et au sein de Moimi, il y a eu un peu de temps avant que les femmes puissent avoir des positions de direction. Mais une fois, ça s'est fait facilement. Il n'y a pas eu besoin de se battre au sein de Momi, en tout cas pour ça.
Et puis pour connaître le réseau, il y a quand même beaucoup de femmes au sein du réseau et à des postes
stratégiques.
Stratégiques, ouais.
Carrément. Ouais. Oui, je pense que même si c'est des gens qui ne sont pas forcément de la génération la plus féministe qui soit, c'est des gens qui préfèrent valoriser les compétences.
Ouais.
Que de se poser les questions du genre, quoi. Et c'est vrai que du coup, bah, je me la pose moins aussi. Hein. Enfin...
Ouais.
Quelque part, je pense que je l'ai plus rencontré de manière complexe au sein du spectacle vivant que au sein de Momi.
D'accord.
Voilà. Dans le spectacle vivant, je me souviens que oui, c'était très, très présent, quoi. Il fallait vraiment s'arracher bec et ongles pour accéder à des postes de direction. Et puis même au niveau des ministères de la culture et tout ça, on se battait pour réussir à avoir quelques femmes à des postes de direction de lieu, quoi.
Et dans la BD, en général, tu vois aussi une bonne évolution, une meilleure représentation de la place des femmes ? Dans les artistes qu'on
dédicace. Oui, quand même. Moi, quand j'ai commencé, les femmes dans la BD, c'était toujours les femmes d'eux. Hein.
Bah ouais, c'est vrai.
C'était beaucoup de coloristes, par exemple, qui travaillaient avec leur mari. Ou alors, elles étaient cantonnées à certains genres, la jeunesse, voilà. Là, aujourd'hui, je trouve qu'il y a plus de diversité. Pas encore assez, à mon goût. Il n'y a pas une équité, je dirais. C'est pas aussi facile pour une femme, je pense, de se faire un nom dans la bande dessinée. Mais c'est moins pire qu'avant.
On les met peut-être plus en avant aussi parce que MeToo et parce que cette volonté aussi de parler plus de femmes en général.
Oui, je pense que oui, il y a une volonté bien sûr d'atteindre une certaine équité et donc de remettre les femmes sur le devant de la scène et c'est très bien. Après, je pense que c'est aussi... mais c'est un peu les mêmes problématiques qu'on rencontre à mon avis dans tous les autres emplois et dans d'autres milieux. C'est-à-dire qu'on a une mise en place de notre checklist de la vie qui est plus complexe que celui d'un homme,
oui.
Bah, de base. Dans la construction émotionnelle, dans ce qu'on attend d'une personne de genre féminin,
ouais.
Pour qu'on puisse dire qu'elle a réussi sa vie.
Ouais.
Et ça, forcément, ça s'applique à la BD. Quand on parle de bande dessinée, je pense que c'est quelque chose qui, encore un peu aujourd'hui, dans l'éducation, ne paraît pas sérieux. Et donc, on n'encourage pas les femmes à aller dans quelque chose qui n'est pas sérieux.
Oui, il y a des femmes aussi qui ne vont pas aller dans certains emplois parce qu'elles ont prévu d'avoir un bébé.
Et exactement.
C'est arrivé à une amie à moi, elle allait avoir le poste, ça l'intéressait. Et donc, la personne lui a dit, mais est-ce que tu comptes avoir un bébé dans les années à venir parce que ce n'est pas compatible avec ce poste.
Alors ça, c'est interdit déjà. On n'a pas le droit de poser cette question-là.
Ah, ça a le mérite d'être sincère au moins, parce que bon, mais en effet, c'est pas...
Oui,
mais ça existe encore,
oui.
Quoi.
Ça existe encore, mais ça c'est oui, bien sûr. Après, quand on a la casquette employeur, on se pose ces questions-là, de savoir si notre salarié va être disponible ou pas dans les années à venir, investi. Et quand on a un enfant, bien sûr que notre centre d'intérêt, il bouge un petit peu. C'est pas incompatible avec le travail, pas du tout. C'est juste un réajustement, quoi.
Mm-hmm.
Mais voilà, je pense que dans la BD, en tout cas dans la librairie, il n'y a pas plus de difficultés qu'ailleurs. Peut-être, effectivement, en tant qu'autrice, c'est plus complexe.
Ouais.
Parce que, effectivement, on laisse moins le loisir aux femmes de se tester en tant qu'autrice.
Et du coup, être en relation avec plus d'éditeurs que d'éditrices.
Oui.
Et des fois, ça peut... Le rapport humain peut être compliqué, quoi, par rapport au passé de certaines femmes.
Oui, et encore, je trouve qu'il y a de plus en plus d'éditrices, moi.
Bah, c'est vrai que là, je pense aux comics, si je reste vraiment dans mon truc. Donc,
comics,
c'est vrai que là, au niveau...
Parce que
sur le franco-belge, c'est vrai.
Il y a de plus en plus... Enfin, moi, je connais plus grosse majorité d'éditrices.
C'est
quoi.
Vrai,
ouais.
C'est vrai.
Ouais. Et en manga aussi.
Oui. Mais c'est le constat aussi que j'avais fait un peu à Quai des Bulles, au niveau des... Que ce soit en journée ou des soirées que j'avais pu faire et des personnes que je côtoie. Où ça reste encore hyper masculin dans le comics.
Oui.
Que ce soit au niveau des éditeurs. Et je dis pas ça mal, attention, hein, je suis pas la féministe énervée. Enfin, en tout cas, pas aujourd'hui, peut-être demain. Mais en presse, même en CM, enfin, je sais qu'il y a une soirée. Et encore une fois, c'est pas de mal. J'ai adoré fréquenter ces personnes-là cette soirée-là, mais j'étais la seule meuf.
Oui, non, mais ça m'étonne pas. Effectivement, je pense que dans certains secteurs éditoriaux, mais je pense que ça se reproduit aussi en litté ou dans certains secteurs.
Oui.
Quoi.
Ouais.
Mais je trouve que ça bouge bien quand même.
Mais oui, c'est, en tout cas, c'est dans le bon sens.
Ouais.
Et dernière question, parce qu'il faut que je te libère, malheureusement. Est-ce que tu peux nous partager ton dernier coup de cœur ? PD, comics, manga, peu importe. Est-ce que tu as une lecture là qui t'a...
Un seul ?
Oh, c'est cool, ça ! C'est pas... Je trouve que c'est... quand on lit énormément, c'est pas facile d'avoir un... J'en ai, hein, évidemment, des coups de cœur. Mais tu sais, ça peut se noyer dans les lectures que tu peux avoir. Et donc, comme tu as l'habitude, tu vois, il y a des schémas narratifs qui se répètent un petit peu. Tu fais, en vrai, ça, j'aurais lu que 2 BD dans l'année. J'aurais trouvé ça incroyable. Mm-mm. J'en ai lu 15. Et oh, c'est peut-être un peu facile par rapport à un autre, tu vois.
Oui,
j'ai moins
oui,
de
bah,
coups
oui,
de cœur
oui.
En lisant plus, moi.
Moi, quand j'ai besoin de me risetter, je lis des romans.
Ah ben ouais, pareil.
Et comme ça, ça me permet de repartir sur une base, comme tu dis, un peu...
saine.
Saine et neuve. J'ai du mal à dire un seul titre. En fait, je lis tellement de choses différentes que quelque part, dans chaque genre, j'ai des coups de cœur.
Bon, bah alors, 2-3 alors. Comme ça, ils seront contents, les auditeurs et les auditrices.
Un de chaque.
Allez.
BD, manga, comics ?
Oui, oui.
Okay. Mon dernier, c'est le... En manga, c'est le DRCL, Midnight Children.
J'ai essayé de l'avoir à Angoulême le dernier jour. Mauvais plan. Il
n'y
avait plus.
Ouais, non mais... Déjà, je suis ultra fan de Shinichi Sakamoto. Depuis Ascension, Innocent, tout ça. Et là, je trouve qu'il nous propose encore une fois un truc... de ouf, une relecture, enfin voilà, toujours avec ces personnages très androgynes et, ouais. et très, très beaux, très lisses, mais en même temps avec un côté très sombre, un peu crade et tout, que j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte de voir la suite, parce que là, le premier tome, c'est vraiment
introductif.
Une mise en place.
Ouais, ouais, ouais. Ouais. Parce qu'il y a souvent ça.
Oui, carrément. Après, en comics, je suis assez fan de ce que fait James Tynion.
Ah, Tynion 4
ouais. Donc, les deux derniers,
The Nice House of the Lake
et Something Killing the Children, pardon pour mon accent anglais.
Erika, je l'aime trop.
Ouais, qui vraiment m'ont beauté et que j'ai bien défendu à Noël. Et puis, en BD franco-belge, j'ai beaucoup aimé la Marche Brume de Fert.
Ah oui, voilà. Ah, mais son dessin.
Voilà, son dessin, il m'embarque toujours.
Tu l'avais lu, le Morgan ? Je crois que c'est lui aussi.
Oui,
hein.
Oui, oui, bien sûr. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. On le suit depuis très tôt, Stéphane. On aime beaucoup ce qu'il fait. Je suis toujours hyper emballée par ses couleurs, ses ambiances. Et je trouve qu'il a toujours, toujours du militantisme dans ses titres, notamment très féministe.
Ouais. Mais bien dosé.
Ouais. Voilà, c'est pas,
ce qui est pas facile
c'est pas,
de faire du militantisme.
C'est pas de l'énerver, c'est plutôt du subtil. Et je trouve que ça se passe bien. Et puis, tu vois, on disait que des fois, on a l'impression de lire plein de choses qui se ressemblent. Et je crois pas que ogre, sorcière ait été mélangé
c'est
souvent.
Vrai. C'est vrai.
Donc voilà. Mais j'ai aussi été hyper séduite par la petite lumière de Panachion. Enfin, voilà. Donc, c'est très varié, ce que je veux dire. Du coup, ouais. J'ai du mal à dire un seul coup de cœur.
Plein de coups de cœur.
Plein de coups de cœur.
Une hotte de coups de cœur. Bah, trop bien. Bah, merci, Julie, pour
avec
ce,
grand
ce
plaisir.
J'espère que ça t'a plu.
Ouais,
c'est ton
cool.
Premier podcast ou pas ?
Non.
Non.
Aussi long, peut-être. Mais ah. Aussi long consacré à ma personne.
Donc, ça va, beaucoup d'ego, tout va bien. Sens...
Ouais, je suis plus une travailleuse de l'ombre, hein, moi, tu sais bien.
Hein oui, mais bon. Je trouve que c'était aussi très intéressant ce que tu avais à dire. En tout cas, c'est très chouette.
En tout cas, que voilà, j'aurais pas ennuyé les gens.
Mais non, t'inquiète pas. Et puis, je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Salut! Thank you.